La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Alors, notre petit tour en Suède n'est pas terminé, puisque encore des créatrices au cinéma qui font partie des pionnières se présentent à moi. La dernière émission, je vous ai présenté une réalisatrice nommée Pauline Brunius, une autre nommée Molly Faustman, également peintre et auteur de livres pour enfants, et mère d'un célèbre réalisateur et acteur de cinéma suédois nommé Erik Amp Faustman. Puis ce fut la scénariste Stina Bergman qui épaulera fidèlement son mari dramaturge Hjalmar Bergman et apparemment prendra sous son aile le célèbre réalisateur Ingmar Bergman. Alors ce fut également la scénariste Esther Julin dont les films sont devenus des classiques du cinéma suédois et dont l'existence a été prématurément abrégée. Nous avons même rencontré la femme qui introduit la censure au cinéma suédois pour préserver les chères petites têtes blondes de deux projections inadéquates pour elle, les jeunes hommes, Marie-Louise Gagné. Et c'est aussi cette autre scénariste, écrivaine, voyageuse nommée Karine Johnson. Et je ne veux pas oublier non plus les musiciennes qui accompagnaient les projections de films, même si je n'ai pas l'assurance qu'elles aient composé des musiques de films. Elles ont néanmoins adapté et dirigé des orchestres. Et ce sont Greta Håkansson et Emily Lilly. Alors vous voyez combien les Suédois sont présents dans l'industrie cinématographique, mais ce n'est pas terminé, car une autre scénariste s'avance vers nous, nommée Dagmar Hedqvist, qui fut également auteure et est née en 1903. Alors, elle a écrit des scénarios, notamment pour le célèbre réalisateur Ingmar Bergman, pour son film de 1948 intitulé « Musique dans le noir », qui relate l'histoire d'un musicien aveugle essayant de dépasser son handicap. Alors, c'est une auteure qui démarre un peu sur les chapeaux de roue avec ses écrits, car elle sera l'une des auteurs les plus lus en Suède, mais elle sera aussi vite oubliée. En tout cas, c'est ce que j'ai lu. Alors, son premier roman, elle écrit en 1932. Il s'intitule « Kamratustru », que l'on pourrait traduire par « l'épouse camarade ». Alors, il semblerait que le sujet traite de l'autonomie des femmes par rapport aux hommes. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ses romans sont décrits comme étant modernes dans le sens où ils aborderaient des problèmes d'actualité avec les relations, notamment dans le couple. Il y a une dimension psychologique qui n'est pas à négliger. Alors, elle n'intéresse pas tout de suite les producteurs, car il semblerait que sa littérature soit considérée comme un peu trop sérieuse, pas dans l'air du temps, pour le cinéma de l'époque. Et c'est l'après-guerre qui déclenche l'intérêt des producteurs, et notamment pour l'adaptation de ce premier roman intitulé « Kamratustru ». Et c'est un réalisateur nommé Henriksson qui adapte ce roman, mais le film n'aurait pas été une réussite. En tout cas, quatre de ses romans feront l'objet d'une adaptation cinématographique. Et celui qui aurait été le mieux élaboré s'intitule « Femme à bord », qui s'inspire d'un voyage en bateau que l'auteur aurait fait en Méditerranée l'hiver 1933. Et en ce qui concerne son autre roman adapté au cinéma, il s'intitule « L'affaire Ingeborg Bresnen » qui traite du viol d'une femme qui abat son agresseur. En tout, elle aurait écrit les scénarios pour quatre films et en partie pour l'adaptation de ses romans, ainsi que les dialogues d'un film intitulé « Flamme dans le noir » de 1942. Quant à ses écrits, ses romans, elle en aurait publié plus d'une vingtaine. Et elle est décédée dans les années 2000 au bel âge de 97 ans. Alors, en cherchant une musique à vous proposer, je suis tombée sur une compositrice de musique de film, figurez-vous. Celle-ci est suédo-norvégienne et se nomme Maj Sonstevold. Elle est née Lina Marianne Lunden en 1917. Or, c'est une personne qui a appris le piano classique, pour se tourner vers le piano jazz et ensuite elle a fondé sa propre école à Stockholm dans les années 30. Et on retrouve d'ailleurs ses compositions de jazz dans des films. Alors elle collaborera avec son mari Gunnar Sønstevold, compositeur lui-même, à l'élaboration de musique de films, mais sa carrière à elle prendra véritablement son essor dès son arrivée en Norvège, fin des années 40. Et le premier film dont elle a composé la musique est un court-métrage intitulé « Ça pousse entre les pierres », qui est un film sur les parcs d'Oslo tourné en 1949. Puis elle composera pour un long-métrage destiné aux enfants et intitulé « Tom et Med sur la piste », réalisé en 1952 par Lauritz Falk. Alors elle est surtout appréciée pour composer des musiques entraînantes. Ben d'ailleurs, nous allons pouvoir en juger sur pièce. Je vous propose une composition de Maje Sønstevold qui s'intitule « Jura ». C'est une musique datée de 1970 apparemment, mais qui vous donne une idée de son travail. Nous allons maintenant accueillir une réalisatrice de documentaire qui se nomme Kaj Aspegren-Tenov. Elle était également actrice et elle est née en 1912. Elle a réalisé des documentaires dont les scénarios étaient écrits par son mari Christian Tenov. Et son premier court-métrage, datant de 1938, relate la vie de deux paysannes qui s'occupent d'animaux. Apparemment, ces documentaires portent à cette époque surtout sur la vie quotidienne, la vie domestique des femmes. Et c'est à partir de 1942 qu'elle commencera à changer plus ou moins de registre. Or, ce seront toujours des documentaires. En tout cas, ceux-là auront la réputation d'être de très bonne qualité. Par exemple, l'un d'eux, réalisé en 1942, sera un documentaire en entreprise sur la production de porcelaine. Elle réalisera également des films de politique et pour valoriser d'éventuels candidats et programmes électoraux. Elle aura d'ailleurs joué des rôles en tant que comédienne dans ses films à orientation politique avant les élections. Et elle aura aussi participé à des films publicitaires sur des produits comme le lait, par exemple. Il faut aussi mentionner sa participation pour commenter les films pendant leur déroulement. Et là aussi, il semblerait qu'elle soit plutôt intéressante et convaincante. En tout cas, il est dit qu'entre 1938 et 1962, elle aurait réalisé une vingtaine de courts-métrages. Alors, une autre actrice, scénariste, réalisatrice se présente à nous. Il s'agit de Barbro Bowman, née en 1918. Elle aurait eu des débuts un peu difficiles dans l'industrie cinématographique, mais elle trouvera être employée comme scénariste dans les années 40 dans une structure, bien qu'il semblerait que sa collaboration ne se passe pas très bien. Si bien qu'elle renoncera un moment à sa carrière pour se marier et fonder sa famille. Et elle reviendra au cinéma en 1948 pour occuper un emploi de directrice de publicité ainsi que de lectrice de scénario dans un studio de cinéma. Et elle réalisera d'ailleurs quelques publicités, jouera également jusqu'au moment où l'envie de réaliser des documentaires, influencée par un film qu'elle aurait visionné, qui est un film éducatif sur des enfants handicapés mentaux, elle se lance alors dans l'aventure de la réalisation de ces documentaires qui l'intéressent. Alors, il s'agit surtout de films éducatifs, comme par exemple l'un d'eux sur un centre où sont soignés des enfants qui souffrent de problèmes mentaux et sociaux. Et ce film, réalisé en 1957, s'intitule, traduit en français, « La route à travers Ska ». Bon, Ska étant, il semblerait, le nom de l'institution. Alors, un autre film semble notable dans sa carrière, d'autant plus qu'il serait en partie autobiographique, puisqu'il dépeint les tourments d'une femme en proie à un milieu bourgeois étriqué et dont la vie de couple, se soldant par un divorce, est insatisfaisante. Et ce film renverrait à ce que Barbro Bowman aurait pu vivre au sein de sa famille dans son enfance. Alors, c'est un film qui apparemment s'adresserait davantage à un public féminin, selon les critiques de l'époque, même si dans son ensemble, ce film aurait été bien accueilli. Et dans les années 50, elle travaillera aussi au Danemark pour le théâtre et réalisera également des films, notamment publicitaires. Puis de retour en Suède, elle réalisera un long métrage en collaboration avec un réalisateur nommé Peter Weiss en 1961, intitulé « Jeune fille suédoise à Paris », où sont décrits les rêves irréalistes de jeunes suédoises installées à Paris. Alors, c'est un film qui apparemment n'obtiendra pas une bonne critique. En tout cas, elle aura réalisé que deux longs métrages. Et il est dit d'elle qu'elle fut une pionnière qui a permis au cinéma de progresser, même si elle n'a pas pu déployer pleinement son potentiel. Alors, j'ai envie de vous faire écouter une musique de swing tirée d'un film des années 40, intitulé « Swing It Magistern » et chanté par une actrice chanteuse suédoise nommée Alice Babs, ou Kay Gullman, la compositrice de films suédois, née en 1905, que je vous ai présentée dans une émission précédente, aurait participé à sa composition. Place au swing.
Det var en gång en skola med en lärare i sång. Han var så väldigt snäll och skötsam. Och barnen de fick bara öva skalor dagen lång. Lektionerna det blev ett tvång. Men en utav eleverna blev trött en vacker dag. Tog mot sig och reste sig och sa: Swing it, magistern, swing it, det är tidens melodi. Gör som vi, var glad och fria, ni kan inte låta bli med all er energi. Och swing it, magistern, swing it, det är tidens egen sång. Allesammans på en gång, bara da 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 da. Bä, bä, vita lam, det är ingenting för oss. Skriva det var förstås. Oh, swing it, magistern, swing it. Det med tidens egen sång. Det är rytm och fest och glatt humör. Lyssna nu, försök och gör. Swing it, swing it, majestän, swing. Ni kan inte låta bli med all energi och swing it, magistern, swing it. Det är tidens egen sång. Allesammans på en gång. Bebe, vita lam
är ingenting för oss.
När är du lätt, da 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 da. Oh, swing it, magistern, swing it. Det är tidens egen sång. Det är rytm och fest och glatt humör. Lyssna nu, försök och gör bara la-da-da-da-da-da-da-da. Swing it, swing it, majestät, swing.
Figurez-vous que parmi toutes ces femmes, il y a aussi des techniciennes qui s'affairent dans les coulisses. Bibi Lindstrom est l'une d'elles, née en 1904, puisqu'elle fut scénographe décoratrice. Alors, c'est véritablement une pionnière du genre dans la création et la réalisation de décors. À l'origine, c'était plutôt une profession masculine. En tout cas, j'ai lu qu'aucun de ses collègues masculins dans la profession n'avait atteint son niveau. Alors, elle commencera sa carrière en 1932, c'est-à-dire à l'âge de 28 ans, pour l'achever en 1973. Alors, au début du cinéma, une femme qui désirait rentrer dans la profession et devenir décoratrice, scénographe, commençait déjà en tant que costumière, dessinatrice, accessoiriste. Et au tout début du cinéma, les décorateurs qui créaient et réalisaient les décors émanaient surtout du théâtre et ils ont transféré leurs compétences au monde du cinéma. Alors, il s'agissait de faire des fonds peints, d'apporter des accessoires. Et bien entendu, le métier de décorateur a évolué avec les exigences cinématographiques. Et lorsque Bibi Lindstrom rentre dans le milieu du cinéma, elle amène les compétences issues de ses études d'art et ce qu'elle a appris pendant les 7 années passées aux arts décoratifs. Et en rentrant dans ce milieu, elle disposait déjà d'un beau bagage. Et sa chance fut qu'à cette époque, l'industrie du cinéma était en expansion, le travail ne manquait pas. Aussi, son implication, ses compétences ont fait le reste pour la maintenir et la faire évoluer dans ce type de profession. Alors, elle sera d'abord employée par l'une des 3 principales sociétés cinématographiques suédoises, la Europa Film. La décoration dans ces milieux, surtout avec un cinéma qui évolue, c'est tout un monde grouillant de techniciens qui s'affairent pour réaliser et ensuite composer un ensemble cohérent. Les décors doivent tenir correctement, ils doivent donner l'illusion du réel. Il faut savoir se montrer créatif, inventif et adroit. Et le matériel de scène était parfois réutilisé, réadapté selon les films et loué parfois à d'autres sociétés. Aussi, les collaborations entre techniciens étaient assez étroites. Et Bibi Lindstrom restera 4 années à la Europa Film de 1933 à 1937 et elle aurait participé ainsi à la production d'une 20aine de films. Puis, elle travaillera aussi quelques années dans un autre studio de 1940 à 1952 et également encore, elle reviendra à la Europa Film. En tout, elle aura participé en tant que décoratrice de cinéma à plus de 150 films. Et dans les années 50, la profession se féminise, elle est au sommet de sa carrière et forme des jeunes femmes qui ont 20 ou 30 ans de moins qu'elle. Alors, elle n'aura pas travaillé que pour le cinéma, puisqu'elle a également utilisé ses compétences au théâtre, peinture de décors, entre autres. Elle aurait également créé des imprimés de tissus, et notamment pour l'ameublement. Et après cette belle et longue carrière, elle décédera à 80 ans en 1984. Alors, pour digérer tout ce que je vous raconte, rien de mieux qu'une petite pause musicale avec une chanson traditionnelle suédoise tendre et mélodieuse, interprétée par une comédienne chanteuse suédoise nommée Monica Zetterlund. Je vous donne la traduction en français pour ne pas massacrer le suédois. Je connais une belle rose.
Jag vet en dejlig rosa och vit som liljeblad. När jag på henne tänker så görs mitt hjärta glad. Dess stämma ger en hjärtans tröst lik nektergalens blida röst, så hövisk och så ljuv. Som solen fagert skiner är hon som purpur klar. Gud, låt dig aldrig sörja men alltid vara glad. Må det få komma samman med hjärtans fröjd och gammal. Som längta till varann.
Après cette agréable chanson merveilleusement interprétée, revenons à nos pionnières. Bibi Lindström aurait travaillé avec une autre pionnière en son genre, nommée Alva Lundin, née en 1889, qui, elle, se spécialisa dans la création de génériques et qui fut par la suite reconnue comme la seule spécialiste de tests cinématographiques en Suède. Alors, qui sont les tests des textes filmés, encore nommés intertitres ou cartons. Et ceux-ci sont constitués d'une typographie expressive et d'illustrations suggestives. Et c'est par cette activité qu'elle a participé à la conception et à la réalisation de textes pour plus de 500 films entre 1920 et 1960. Et il paraît qu'elle était extrêmement active. Alors comment en est-elle arrivée là ? Ben, c'est dans une école d'art dès l'âge de 15 ans qu'elle a commencé à étudier la peinture, la typographie, la calligraphie, entre autres techniques graphiques. Et elle aurait débuté comme calligraphe et illustratrice dans une maison d'édition avant de se marier avec un artiste, lui aussi, nommé Sven Lundin. Et tous deux ont créé ensemble leur propre entreprise. Leur travail consistant surtout à fournir des dessins typographiques pour des en-têtes de lettres et de diplômes. Ensuite, elle a rejoint l'industrie du cinéma pour poursuivre une carrière réussie. Il faut dire aussi qu'à l'époque du muet, les textes étaient utiles pour affiner la compréhension de l'intrigue. Par la suite, le parlant est arrivé. Le métier a aussi évolué. Ava Lundin a suivi le mouvement et ses compétences ont été utilisées différemment. Ceci dit, par la qualité de son travail, Ava Lundin a été distinguée et reçu des éloges sur son énergie, son ingéniosité et son sens de l'humour aussi, paraît-il, pas si courant chez les femmes, c'est ce que disent les messieurs de l'époque. Eh bien, c'est sur Ava Lundin que nous allons nous quitter, mais ce n'est que partie remise. J'aurai encore le plaisir de vous emmener avec moi faire un petit tour dans les pays nordiques pour rencontrer d'autres de ces pionnières au cinéma. En attendant, je vous remercie de votre écoute. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.